Nous sommes heureux de nous retrouver dans la maison de la Vierge Marie. C'est ce mois de septembre déjà, c'est un jour de semaine, c'est plus comme le 15 août où chaque jour était un jour de fête. Là déjà, nous sommes rejoints par la rentrée, par le rythme quotidien. Et c'est une bonne manière de penser à la nativité de la Vierge Marie, car elle est vraiment née, la Vierge Marie, dans un contexte très quotidien comme le nôtre, qui n'avait rien d'extraordinaire. Elle était pourtant l'Immaculée Conception. Cette nativité de la Vierge Marie, l'Écriture ne nous en dit rien. On connaît, par une pieuse tradition, le nom de ses parents, Sainte Anne, qui est là contre le pilier, Saint Joachim, qui est là contre cet autre pilier, et qui sont bien présents dans le sanctuaire. Mais les évangiles ne nous disent rien, il n'y a aucun détail sur la nativité, la naissance de la Vierge Marie. On imagine le climat d'amour de cette famille, mais on ne fait que l'imaginer. Cette absence de détails est, vous savez, les vides, les silences de l'Écriture parlent presque aussi fort que les parties pleines. L'absence de détails, eh bien, a une conséquence qui est aussi une volonté de la part de cet Esprit Saint qui a inspiré ces Écritures sur lesquelles se fonde notre foi, c'est que nous ne pouvons avoir qu'une vision théologique de la Vierge Marie. Même si on connaît d'autres détails de sa vie, bien évidemment, lors de l'Annonciation. Mais fondamentalement, connaître la vie privée de Marie n'a aucun intérêt pour notre foi. C'est un grand message. En même temps, ce n'est pas interdit. Certaines personnes aiment bien les révélations du type Maria Valtorta, ou qui reconstituent toute la vie des personnages du Nouveau Testament. Mais ça, c'est toujours pas une révélation, c'est simplement une petite inspiration pieuse. On ne peut pas fonder notre foi sur ce genre d'écrit, qu'on le veuille ou non, même s'il nous plaise. La vision de la Vierge Marie est avant tout théologique. Michée, dans sa prophétie qui annonce celle qui doit enfanter, c'est mystérieux, celle qui doit enfanter. On ne sait pas qui, et on ne sait pas qui elle est, cette femme. Parce qu'il regarde vers un futur lointain, et il ne peut pas voir les détails de ce futur. Mais il précise que le peuple va demeurer dans une grande servitude d'un point de vue religieux, et bien jusqu'à ce qu'elle arrive, cette Vierge, jusqu'à ce qu'elle enfante celui qui doit être enfanté pour permettre la libération du peuple. L'Ancien Testament n'a jamais libéré le peuple des croyants. C'est comme ça. Sans cesse, la loi reportait le péché, mais sans jamais le pardonner. Toute l'histoire de l'Ancien Testament est une histoire quasiment de trahison du Dieu d'Israël. Il y a eu quand même des moments de grâce, de restauration. Mais sans cesse, ce peuple à la nuque raide, comme disait Dieu à Moïse, eh bien retombe dans l'idolâtrie, c'est-à-dire dans l'adoration des valeurs du monde. Le monde, il est construit d'abord sur un égoïsme fondamental, il ne travaille que pour lui, et puis sur un orgueil fondamental, pas ni Dieu ni maître, sauf lui-même, c'est ça le monde. Et tout en découle. Si le monde était ouvert à la vérité, bien le monde rencontrerait Dieu, mais ça n'est pas le cas. Marie précède l'Église. Cette femme mystérieuse, entreaperçue par Michée plusieurs siècles avant notre ère, eh bien Marie, elle précède l'Église. Elle est la mère de l'Église. Et en tant qu'Immaculée Conception, eh bien, elle est l'épouse de l'Esprit-Saint, et dans l'incarnation du Verbe, s'entend. Mais déjà, lors de sa naissance, Eh bien, l'Esprit Saint est là, comme une divine sage-femme, en quelque sorte, qui préside vraiment à son entrée dans le monde. Une entrée discrète, je le répète, dans le quotidien, mais une entrée réelle. Est arrivée, à ce moment-là, celle qui devait un jour enfanter. Enfanter celui qui allait nous tirer de la servitude du péché. Et vraiment, Jésus nous tire de cette servitude. Et Marie, elle est le lien direct. C'est être l'épouse de l'Esprit-Saint, c'est la condition sine qua non de la liberté par rapport au monde. Personne sur la terre ne pouvait accueillir cet Esprit-Saint, et donc le Verbe de Dieu par conséquent, hormis la Vierge Marie. Aucune église ou embryon d'église, qu'elle soit de l'Ancien Testament ou en marche vers le Nouveau, ne pouvait avoir cette initiative-là. Dieu précède toutes nos initiatives parce que l'homme est prisonnier du péché. Il faut avoir cette humilité de s'en rendre compte. Sinon, on ne s'en sort jamais. Et l'Église est animée par l'Esprit-Saint, doit être animée par l'Esprit-Saint, mais il y a une condition, là encore, sine qua non. C'est de l'accueillir, cet Esprit-Saint, de lui permettre d'avoir une place. Sinon, l'Église peut exister, mais à la mode de l'Ancien Testament, sans la grâce qui permet d'être libéré des valeurs du monde. Auquel cas, eh bien, toutes les valeurs du monde deviennent des pôles qui orientent nos actions. Une Église qui n'est pas critique vis-à-vis du monde est une Église insipide, dont l'action n'a aucune conséquence et ne prête justement pas à la conséquence. Notre-Dame du Cross, eh bien, ressemble à cette campagne de Bethléem qui a vu la naissance de Jésus. Elle ressemble à cette campagne de Nazareth, enfin là c'est pas la campagne, mais peu importe, au village de Nazareth qui a vu la naissance de la Vierge Marie. Marie propose sans cesse, dans toutes ses demeures, et donc dans cette demeure en particulier, c'est la fête du sanctuaire, du cross, eh bien elle propose l'enfant Jésus à l'adoration des bergers que nous sommes. Mais il faut être dans la disposition des bergers pour ça. Les bergers sont humbles et ils recherchent, eux, fondamentalement ce que Marie, les bras ouverts, leur propose ici, dans ce sanctuaire. On peut la saluer d'un double titre, elle est consolatrice des affligés, parce qu'il y a de quoi être consolé dans le monde dans lequel nous sommes immergés et on est plein de bosses et de contusions souvent par rapport à notre foi et à nos valeurs. Et puis elle est maîtresse de vie spirituelle. La Vierge Marie vraiment ne se contente pas de nous consoler. Elle nous forge à la foi au pied de la croix. Elle était la seule à porter la foi de toute l'Église naissante. C'est à elle qu'a été confiée cette charge jusqu'à la résurrection du Christ, dans cette période du Triduum si sombre. Marie est vraiment maîtresse de vie spirituelle. On prie Marie, et puis l'Esprit-Saint n'est jamais très loin dans ce cas-là. Et l'Esprit-Saint, c'est le grand maître théologique qui forme les croyants. Alors voilà, et tout cela immergé dans ce quotidien, ou de Bethléem, ou de Nazareth, un quotidien qui réclame, qui exige la naissance du Verbe de Dieu. Si nous laissons notre quotidien sans le Verbe de Dieu, si nous ne permettons pas à Marie de faire naître Jésus dans nos cœurs, eh bien, le quotidien sera insipide, il sera triste, il sera sans espérance. Et si le monde a besoin d'espérance, il a besoin aussi de se convertir, ce monde. Il a besoin de s'ouvrir à la recherche de la vérité et à reconnaître que l'amour est la seule valeur qui rassemble toutes les valeurs.